Oui, c'est l'anniversaire de l'Église, comme l'a dit le frère. Hein, c'est la Pentecôte. Donc, on va lire un petit passage qui se trouve dans Actes, chapitre 1. Voilà ce qu'on lit. Actes, chapitre 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, l'Évangile, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, du commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent les royaumes de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que les pères avaient promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras les royaumes d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Passer au chapitre 2. Et on prend le verset 5. Bon, prenons verset 1, va. Le frère, il m'a laissé beaucoup de temps, alors je vais en profiter. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le soleil, sous le ciel. Au bruit qu'il y a eu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas Galiléens ?» Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Des Parthes, des Mèdes, des Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont devenus des Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveille des dieux? Voilà, on va s'arrêter là. Voilà, il dit les jours de la Pentecôte. Tous ces gens qui étaient réunis de toutes les nations, pourquoi est-ce qu'ils étaient là? C'est une question que je vous pose. Quelqu'un peut donner une réponse? Comme on dit chez moi en Italie, qui tace acconsente. C'est-à-dire, vous êtes tous d'accord avec moi. Je n'ai rien dit et vous êtes d'accord avec moi. Est-ce qu'ils étaient là pour fêter la Pentecôte? Non. Ça veut dire quoi, d'abord, Pentecôte? Pardon? 50. 51e. Et pourquoi ce 50, mon frère? Hein? 50 jours après Pâques. Mais est-ce que c'est un jour que les Juifs ils fêtaient? Est-ce Est-ce que les Juifs, ils fêtaient la Pentecôte? Eh non. Alors, ils fêtaient quoi? On va le voir. Pourquoi Pentecôte? Pentecôte, c'est le mot grec. Pentecôtos, que ça veut dire le 50e jour. D'où est-ce qu'on tire ça? Les Juifs, qu'est-ce qu'ils fêtaient? Tous ces Juifs qui nous ont dit qu'ils étaient là, en tout c'était 15 nations. C'était le monde connu de ce moment-là, quoi. Et tous, ils se sont réunis. Mais ils fêtaient quoi? Pas la Pentecôte. Parce que la Pentecôte, on sait ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il est arrivé à la Pentecôte? On vient de le lire. Le Saint-Esprit est descendu sur les chrétiens. Est-ce que les Juifs, ils fêtaient la Pentecôte? Non. Je vais vous lire un verset dans le Lévitique, chapitre 23. Le verset 15 et 16. Ça, c'est Dieu qui parle, hein, Dieu qui parle, qui a donné ça à Moïse. Hein. Il leur dit, depuis le lendemain du sabbat. C'est quoi, depuis le lendemain du sabbat? Quel sabbat? Depuis le lendemain de quoi? Qu'est-ce qui est arrivé après le sabbat, le lendemain du sabbat? La résurrection. Donc, vous voyez déjà, Dieu, il nous met sur le chemin. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée des côtés et d'autres, vous compterez 7 semaines entières. 7 semaines entières, ça fait combien? 49. Plus les jours, n'est-ce pas? Hein? Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Nouvelle, pourquoi? Parce qu'il y a déjà eu une offrande nouvelle, les lendemains du sabbat, hein, l'offrande. Et ça, qu'est-ce que c'est ce qu'ils fêtaient, ces gens-là? Ils fêtaient une des fêtes que l'Éternel il avait données au peuple juif. Au peuple juif. Et le peuple juif, il continue à les fêter. Mais pourquoi Dieu a-t-il donné ces fêtes? Juste pour dire, voilà, mon peuple, vous vous réunissez ce jour-là, hein, à telle date. Hein. Non, tout ce que Dieu donne, il a un plan dans sa tête. Il y a le cheminement du futur. Dieu, il nous donne ce qu'il désire accomplir dans le futur. Et donc, il donne au peuple juif cette 7. La première fête, qui peut me dire la première fête? C'est la Pâque. La Pâque juive. C'est quoi la Pâque juive? L'agneau qui a été immolé. D'ailleurs, il nous l'a dit, Moïse, Dieu, il dit par Moïse, il dit, ce jour-là, ça va être le commencement de l'année. C'est les premiers mois de l'année. Pourquoi? Parce que la vie commence avec les sacrifices de Jésus-Christ. Vous savez que les Juifs, ils ont un calendrier civil et un calendrier religieux. Ils ont dans le calendrier juif civil, le premier de l'an, c'est comme nous. Les premiers jours de l'an, les premiers jours, c'est ce que nous on fait. Mais bibliquement, les premiers mois, c'est la Pâque. Parce que Dieu, il l'a donné comme ça. La deuxième, après la Pâque, Dieu, il nous a enlevé le péché. Dieu, par Jésus-Christ, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y a la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, ils devaient nettoyer leur maison, il ne devait pas y avoir du levain partout. Nettoyer partout. Et le levain, c'est le péché. Ça, c'est la deuxième fête. Le sacrifice de Jésus-Christ, La deuxième, le péché, enlever entièrement le péché qui nous entoure, comme dit Paul, qui nous enveloppe si facilement. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Et ça, c'est la fête sans levain. La troisième fête, c'est la fête des moissons. C'est la fête des prémices. C'est la fête, en hébreu, c'est les Shavuot. Voilà les Juifs là, qu'est-ce qu'ils étaient venus fêter. Et c'était quoi qu'ils fêtaient? C'était la fête de la moisson. Alors, ils recueillaient la première gerbe, ils la ramenaient dans le temple, et les sacrificateurs et les lévites, ils prenaient la gerbe et ils l'offraient à l'Éternel. Cette gerbe, il représentait la prémisse. Si je vous dis la prémisse, qu'est-ce que ça signifie? C'est Jésus-Christ. Et on le trouve dans 1 Corinthiens 15. C'est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Les prémices. Ils offraient la gerbe à Jésus-Christ, à Dieu l'Éternel. Jésus-Christ, voilà, c'est lui qui a accompli le sacrifice, qui nous a enlevé ce péché. Et il nous a dit aussi, les prémices, c'est quoi? Vous savez tous ce que c'est les prémices, n'est-ce pas? C'est les premiers fruits. Alors, Jésus est les prémices de la résurrection. C'est quoi les prémices du fruit? C'est, mais c'est nous. Et il nous a dit dans Jacques, nous dit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Donc, dans cette fête, le Shavuot, pour nous c'est la Pentecôte, parce qu'ils ont utilisé les mots grecs, le 50e jour. Donc, voilà, on offre à Dieu la prémisse, la gerbe, et en même temps, les fruits de cette prémisse, et ces fruits, c'est nous. Il nous offre à Dieu. Il offrait le peuple d'Israël, il s'est dédié à Dieu. Ça, c'est la troisième fête, et c'est pour nous la Pentecôte. La quatrième fête, c'est la fête des trompettes. Qui dit trompette dit réjouissance. Et ça, c'est les trois fêtes qui restent, ils ne sont pas encore accomplis. On s'est arrêté à la Pentecôte. Et c'est quoi? C'est la venue du Saint-Esprit ici-bas. Ensuite, la quatrième fête, c'est la fête des trompettes. Et ça se représente le retour béni de Jésus-Christ. Cieux, ouvrez vos portes. Le retour de Jésus-Christ. Et après, il y a les jours des expiations. Les jours des expiations. Une autre fête. Pourquoi? Il fêtait quoi? Il le fait encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais dans la fête, selon Dieu, c'est lorsque son peuple terrestre, Israël, il se convertira, il verra le Messie qu'ils ont crucifié, et il se convertira. C'est ça, les jours de l'expiation. Et il y a la sixième fête, c'est la fête des tabernacles. Vous avez lu ça, La fête des tabernacles. C'est quoi la fête des tabernacles? Vous savez, ils se faisaient des cabanes dehors, pas dans les maisons, mais dehors. Et ils y habitaient. Et la fête des tabernacles, ça représente les milléniums. Oui, ils habitaient dehors, à l'abri de tout danger. Pourquoi? Parce que le Messie, il était là. Parce que le Seigneur Jésus, il régnait ici-bas. Et ensuite, il y a la septième fête, c'est les derniers grands jours. Et c'est l'état éternel. C'est l'état où nous serons complètement rétablis de toutes choses. Nous vivrons en paix ici-bas. Allez, comme Adam et Ève, ils ont vécu dans le paradis terrestre. Voilà les fêtes que Dieu il a données au peuple juif. Et aucune chose, tout ce que Dieu il a donné au peuple juif, il a toujours un but. Donc, ne croyez pas que ces fêtes-là, il les a données juste pour qu'ils puissent se réjouir. Mais c'est les plans de Dieu. Et nous, aujourd'hui, on fête la Pentecôte. C'est la fête de l'Église. C'est la naissance de l'Église. Et il nous invite, cette fête-là, il nous invite à nous souvenir de notre vocation en tant qu'enfant de Dieu et accomplir ce que le Seigneur il nous a donné à accomplir. Parce que le Seigneur il a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. C'est ça, le Saint-Esprit. C'est la naissance de l'Église, l'institution de tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur. Et notre mission, c'est mission ou vocation, c'est d'annoncer la gloire de Dieu. D'ailleurs, lorsqu'ils ont reçu ce Saint-Esprit, tous ces gens de chaque nation, il y en a 15, hein, c'était le monde connu d'avant. Ils les entendaient parler tous dans leur propre langue. Hein, beaucoup, ils ont voulu changer en disant que c'était des langues spéciales. Non, c'était des langues compréhensibles. C'était des langues que tous, ils comprenaient. Imaginez-vous, il y avait 15 nations, donc tous ne parlaient pas la même langue, mais tous ils les ont entendus parler leur propre langue. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient la gloire de Dieu. C'est ça que nous devons. Voilà pourquoi parmi ces 15 nations, lorsque Pierre il s'est levé, il y a eu 3000 qui se sont convertis. Et ces 3000, ils représentent l'humanité tout entière. Chacun de nous, il parle sa propre langue, n'est-ce pas? Et chacun de nous, il doit annoncer à tous ceux qui parlent notre langue, nous devons leur annoncer la gloire des dieux. Et pour cela, nous avons reçu cette puissance qui est le Saint-Esprit. D'ailleurs, regardez les disciples, où est-ce qu'ils étaient? Ils étaient, avant de recevoir cette puissance, ils étaient enfermés. Ils avaient peur des autorités, des juifs, parce qu'ils venaient de tuer Jésus. Donc, automatiquement, ils devaient tuer tous ceux qui suivent Jésus. Mais lorsque cette puissance et le descendu sur eux, ils ont ouvert la porte et ils sont sortis. Et tous, ils parlaient une langue différente pour annoncer à tous ces gens qui étaient là, leur annoncer qu'une nouvelle œuvre des dieux, il venait de commencer. Et cette nouvelle œuvre, c'est l'Église, dont nous faisons partie. D'ailleurs, lorsque nous avons ouvert notre cœur à Jésus-Christ, nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Il y en a qui disent que le baptême du Saint-Esprit, il vient après le salut. C'est faux. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ, on est baptisé du Saint-Esprit. Jean, il vous a baptisé d'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit. Lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, on est baptisé du Saint-Esprit. Pour eux, ils avaient déjà le Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas la puissance. Et avec cette puissance, ils ont pu sortir et annoncer la bonne parole. Qu'est-ce que c'est que moi, par exemple, je parle de moi, je ne vais pas parler de vous, hein. Je parle de moi. Jamais, parce que je suis quelqu'un de timide, hein. Sauf que lorsque je suis ici, je me lâche. Pourquoi? Parce que je parle de Dieu. Et jamais je me serais vu parler en public. Jamais, jamais, jamais. Et pourtant, les jours que j'ai accepté le Seigneur Jésus, qu'est-ce que j'ai fait? Tout de suite, l'Esprit m'a poussé dans un institut biblique pour étudier la parole de Dieu. Et une fois que j'ai étudié la parole de Dieu, il nous l'a dit, « Ne vous occupez pas de ce que vous allez dire ou faire, car l'Esprit, il vous dira sur le moment même ce que vous devez faire ou ce que vous devez dire. » Et c'est ça la puissance, le Saint-Esprit. C'est ce qu'ils ont fait, les disciples. Et c'est ça la nouvelle œuvre. C'est ça notre vocation, qui aimons le Seigneur Jésus dans notre cœur. C'est à nous d'annoncer tout autour de nous ce témoignage du Christ ressuscité. Vous savez, c'est la chose que les disciples, ils ont prêché. Hein. Pierre, il s'est levé et il a dit, « Ah, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est lui, il est ressuscité et il est vivant. » Et c'est ça notre message. Nous n'avons pas intérêt à prêcher quelqu'un qui se trouve sur la tombe. À quoi bon prêcher des gens qui ont peut-être fondé une religion, une croyance, mais ils sont morts. Mais notre Jésus à nous, il est vivant. Et le peuple dit « Amen ». Voilà, bravo. Hein, comme le disait Jésus, hein, la vérité il sort de la bouche des enfants. Hein. Voilà ce que nous devons annoncer. Et vous savez, dans cette journée, il y a trois choses qui nous montrent la présence du Saint-Esprit. Pas seulement dans cette nouvelle œuvre, parce que vous savez, l'Église, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les conseils qui le dirigent, mais c'est dirigé par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Si des fois on se trompe, on fait prendre un mauvais chemin, ce n'est pas le Saint-Esprit qui s'est trompé, mais c'est ceux qui apportent l'enseignement, qui eux aussi, eux-mêmes, ils sont sur un mauvais chemin. Parce que Dieu, il ne se trompe pas. Si on suit ses enseignements, il ne se trompe pas. Il y a trois choses qui nous montrent comment la présence du Saint-Esprit, il était là, et aussi il était dans le cœur de tous ses disciples qui étaient réunis. Premièrement, au verset 2, on le trouve au verset 2, lorsqu'il dit « un vent, un souffle, un vent ». Terrifiant, il s'est fait entendre. Et ça, il nous présente, voilà les premiers signes de la présence du Saint-Esprit. Un vent, un souffle qui soufflait très fort, et les gens ils se sont aperçus de cela. On ne pouvait pas rester inactif une fois que ce feu il est arrivé. Vous savez, lorsqu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, dans notre cœur, comme on dit, on est tout feu, tout flamme. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il nous a pris possession. On est tellement pris en ces choses-là que nous ne pouvons pas nous taire. Un jour, à quelqu'un qui est ici, là, je ne dis pas le nom, hein, et il m'a dit, à la maison, ils ne croient pas, mais je ne peux pas m'empêcher de parler de Jésus. Pourquoi? Parce que son cœur est en feu pour le Seigneur. Et lorsque le Saint-Esprit il est à nous, lorsque nous avons ce premier amour de Jésus, il n'y a rien qui peut nous empêcher. Paul il nous dit, cueillez toute occasion pour annoncer Jésus-Christ. Et lorsque on a le feu du Saint-Esprit en nous, nous ne pouvons pas nous taire. Le Seigneur il a dit, si vous vous taisez, les pierres, ils vont le faire à votre place. Ce feu du Saint-Esprit, c'est quelque chose de terrifiant qui ne nous laisse pas actifs, qui nous fait bouger. Un exemple, on l'a dans, regardez, Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Premier verset. Il dit, La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Voilà, l'Esprit, il prend Ézéchiel et il le pose dans une vallée où il n'y avait que des os. Il me dit, voici, il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Les eaux. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Je ne sais rien, moi, Seigneur, mais toi, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux, sur ces os. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'éternel. Ainsi parle le Seigneur. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai des peaux. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu et comme j'ai prophétisé, il y a eu un bruit et voici, il s'est fait un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je ne sais pas si vous avez vu des films, des science-fiction, tournés à vitesse, je ne sais pas combien, ils se réforment tout. Vous voyez, ce n'est pas nouveau, hein. Et il continue, et il dit, j'ai regardé, et voici, il leur vint des nerfs à ses os, à ses os. Et os, c'est autre chose, hein. Vous me comprenez, hein. Je suis italien, et comme on dit, quand on aime, on pardonne, n'est-ce pas, hein? Voilà. Et voici, il leur vint des nerfs, la chair... Elle commence, elle a poussé. Et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux l'esprit. Alors le Seigneur, il dit, verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils d'homme. Et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 80 souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils s'étaient sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. C'est ça l'Esprit. Lorsqu'il rentre dans le cœur d'un homme, d'une femme, il faut qu'il bouge. Si avant d'avoir Jésus-Christ, nous ne faisions rien pour le Seigneur. Mais lorsque l'Esprit de Dieu il rentre en nous, automatiquement, nous sommes obligés de se mettre debout, comme c'est arrivé à ses os. Lorsque Dieu il a dit, Esprit, viens, il est rentré en eux et ils s'y sont mis debout. Et ainsi, il a fait l'Esprit le jour de la Pentecôte. Il est rentré dans les disciples et ils étaient enfermés, ils se sont mis debout. Le feu du Saint-Esprit, le souffle du Saint-Esprit, il les a fait lever et les a mis debout. Le deuxième signe, on le trouve au verset 3. Il nous parle que lorsque l'Esprit est descendu, il y a eu des langues de feu qui sont demeurés sur eux. Et ce feu, c'est le deuxième aussi. Et vous savez, lorsque le feu, il arrive dans notre cœur, il nous fait bouger. Si on ne bouge pas, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il n'y a pas ce feu. Et vous savez à quoi ça sert, le feu ? À purifier. À purifier. D'ailleurs, l'or et l'argent, on le purifie comment ? Avec le feu. Avec le feu. Et c'est ce feu qui est rentré à eux, qui les a fait bouger. Et c'est dans notre propre vie, c'est exactement la même chose. Nous ne pouvons pas rester inactifs, car nous avons une vocation. Nous appartenons à l'Église. Déjà, il dit, oh, mais je m'en fous, moi, je pense à moi. Non, si on a Jésus-Christ dans notre cœur, nous faisons partie de l'Église. Nous faisons partie de l'Église. Vous savez, aujourd'hui, il y a le païen, il y a les juifs et il y a l'Église. Les deux premiers, lorsqu'ils acceptent le Seigneur, ils rentrent dans l'Église. Il n'y a plus ni juif et ni grec dans le salut. Ceux qui veulent avoir le salut, ceux qui désirent avoir la vie éternelle, il faut qu'ils rentrent dans l'Église. Par la suite, lorsque l'Église va être enlevée, il restera pas trois, mais deux, les païens et les juifs. L'Église n'est plus là. Mais maintenant, dans cette dispensation de la grâce, il faut faire partie de l'Église. Si on a Jésus-Christ, on est automatiquement dans l'Église. Et c'est ça qui est très important. Pourquoi on rentre dans l'Église? Parce que cet esprit qu'il y a en nous, il nous a poussés à accepter le Seigneur Jésus. C'est lui l'esprit qui nous a dit, Aldo, tu es dans le péché, tu es pécheur, tu as besoin d'être sauvé. Si tu continues comme ça, tu iras en enfer. Regarde ta propre vie et réfléchis. Es-tu pécheur? Oui, si on est honnête avec nous-mêmes, personne ne peut dire « Non, je ne suis pas pécheur. » Ah, mais je n'ai pas fait de ça et ça et ça. Je n'ai pas tué, je n'ai pas fait de l'adultère, je n'ai pas volé. Oui, mais ça suffit que tu dises une petite mensonge. Tu es fautif. Tu mérites la mort. Notre ancien pasteur, Bob, je vous l'ai déjà dit, il était dans la tristesse. Un jour, je viens de le voir. Il était triste. J'ai dit, qu'est-ce que tu as? Il a dit, j'étais dans un bureau et je suis parti avec une trombone. Qu'est-ce que c'est qu'une trombone? C'est prendre quelque chose qui n'appartient pas. C'est du vol. Combien il y en a qui travaillent dans le bureau? Et ils ramènent des stylos, et ils ramènent des trucs sans demander la permission, ou des feuillets, et tout ça. C'est du vol. Cette chose-là ne vous appartient pas. Et après, on dit, ah, je n'ai pas péché, moi. Rappelle-toi, les stylos que tu as sur la main, à qui c'est? Ah, c'est au bureau. Mais pourquoi tu ne l'as pas ramené? Oh, ils ne vont pas s'en apercevoir. Vous savez, hein, je vous l'ai déjà dit, nous devons être comme les chiens. Les chiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont toujours les yeux à haut. Ils regardent leur maître. Au pied, il est là. Ils regardent leur maître. Nous devons être comme ça. Et l'Épître aux Hébreux, il nous le dit, ayez le regard fixé sur Jésus-Christ. Ce feu du Saint-Esprit, ces langues qui sont descendues, c'est le feu que l'Esprit il nous donne. Qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur Jésus à l'Église en Apocalypse? Tu fais tout bien, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. C'est-à-dire qu'on a autre chose dans notre propre tête à la place de Jésus. Au commencement, ah, il était là, hein. Il avait réunion, je suis là, hein. Pasteur, vous voulez que je fasse quelque chose? Qu'est-ce que je peux faire pour... Le temps, ça passe. On a perdu les premiers amours. C'est ça qui s'est manifesté à la Pentecôte. Le feu, il est descendu sur eux. Et ils ont bougé, car lorsqu'il y a le feu, qu'est-ce qu'on fait? On ne reste pas insensible, n'est-ce pas? Voilà de la présence de l'Esprit. Si nous avons le Saint-Esprit, nous devons bouger. Si on ne bouge pas, il y a problème. C'est notre vocation. Le troisième signe de la présence du Saint-Esprit dans la vie de ses disciples, c'est au verset 4, la parole et les témoignages. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie et dans la Judée. C'est dit d'abord où vous êtes et ensuite vous sortez. Et ensuite vous vous expatriez. Mais le signe visible, c'est le témoignage. C'est ça la présence du Seigneur, de l'Esprit. Hein? Par le témoignage, nous devons parler, annoncer ce que nous avons au plus profond de notre cœur. Lorsqu'on aime une jeune fille ou un garçon, qu'est-ce qu'on fait la première chose? On lui dit, ben, je t'aime. On rencontre un ami, ah, tu sais, j'aime cette fille. Hein? Si nous aimons Jésus, nous devons le dire. Nous devons le dire. C'est un témoignage. La sœur, le 29, il va nous parler de tous ces chrétiens qui sont persécutés, qui sont martyrisés en Syrie et dans tout alentour. Parce qu'il a travaillé 25 ans dans ces pays-là. Et s'il y a quelqu'un qui les connaît, c'est elle. Nous ne connaissons rien de ce qui souffre, nos frères et sœurs. Des fois, de temps en temps, on se rappelle d'eux, on prie pour eux. Mais cette foi qu'ils ont plus profond d'eux-mêmes, des fois, on est jaloux de cette foi, n'est-ce pas? Imaginez en France s'il arrivait une chose comme ça. Est-ce que nous serions au culte le dimanche? Ouverts, hein? C'est ça, aimer le Seigneur. C'est avoir les témoignages du Seigneur. Et vous savez, oh, mais je ne sais pas parler. Je suis timide. Mais le Seigneur, il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit de puissance. C'est lui qui va parler à notre place. C'est lui qui va nous conduire, qui va nous diriger. N'ayons pas peur. C'est pas avec notre intelligence que nous allons parler. Mais c'est lui, avec la sagesse divine, avec la sagesse qui vient d'en haut. Parce que c'est notre vocation. C'est notre vocation. Et pas seulement, ah, je vais être docteur, je vais être avocat. Mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ. Et nous avons un message de Jésus-Christ à annoncer. Ézéchiel, il nous l'a dit. Dieu, il lui dit, fils de l'homme, j'étais établi en tant que sentinelle. Une sentinelle, il fait quoi? Une sentinelle, il voit du haut de la montagne si l'ennemi arrive, s'il y a péril. Et qu'est-ce qu'il fait, la sentinelle? Il annonce. Attention au péril. Attention, l'ennemi est là. Attention, si vous continuez comme ça, la colère de Dieu, elle va s'abattre sur vous. Il continue à Dieu, à Ézéchiel, il lui dit, parle, parle. S'il ne t'écoute pas, ce n'est pas ton problème, ce n'est pas notre problème. Nous, notre vocation, c'est d'annoncer. Après, si la personne, il annonce, il ne croit pas ou il n'accepte pas, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas notre problème. Nous, on a une vocation. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Et nous le faisons. Après, chacun, il prend ses propres responsabilités. Et c'est ça, cet esprit. La Pentecôte, c'est le point, c'est le commencement de l'évangélisation. Et il y a beaucoup de chrétiens qui n'aiment pas ces mots, évangélisation. Mais la Pentecôte, c'est ça. Le Saint-Esprit, il nous a été donné. Cette puissance, il nous a été donnée pour qu'on puisse aller partout. D'ailleurs, les derniers commandements du Seigneur, Matthieu 28, allez dans le monde entier. Faites des disciples. C'est notre vocation. La Pentecôte, c'est le commencement de l'évangélisation. C'est à partir de là que les disciples, ils ont commencé à Jérusalem et ensuite ils ont commencé. Mais petit à petit, on a oublié cela. On l'a vu lorsqu'on a étudié les Actes. En 40 ans, toute l'Asie, tout l'Empire romain, il avait entendu parler de Jésus-Christ. 40 ans. Ils se sont passés 1800 ans à peu près. Et il y a encore des endroits où la parole de Dieu n'a pas été annoncée. Il y a encore des gens qui ne connaissent pas ce grand amour que Dieu il a eu pour nous en envoyant son Fils Jésus-Christ. Peut-être qu'il y a des gens dans nos propres familles qui ne connaissent pas le Seigneur, des gens qui travaillent avec nous qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est notre vocation. Attention, je ne vous dis pas de parler au travail de Jésus, hein. Mais il faut prendre toutes les occasions de montrer que vous appartenez à la famille de Dieu. Voilà la Pentecôte du jour après le sabbat, comptez 50 jours, et à partir de là, c'est la Pentecôte. C'est-à-dire que le Seigneur, il a envoyé cette puissance, et avec cette puissance, nous devons aller. Et c'est à travers ces trois signes, le vent, le feu et les témoignages, qu'on voit la présence de l'Esprit dans nos propres vies et dans l'Église. C'est cette présence-là que nous devons manifester. Connaissons-nous cette présence dans notre propre vie? Ça, c'est la question que chacun de nous, il doit se poser. Soyons invités à cette fête remplis de l'Esprit. Paul, il nous le dit, soyez remplis d'Esprit, pas de vin. Si on a l'Esprit en nous, et si nous sommes, et si nous accomplissons cette volonté, alors il y aura des grands miracles tout autour de nous. Ce n'est pas nous qui ferons les miracles, mais c'est Dieu qui le fera. À travers ce Saint-Esprit, il va convaincre le monde de péché, des jugements, et il va les amener au pied de cette croix. Voilà ce que... Comment est-ce qu'on est rempli du Saint-Esprit? Premièrement, en laissant le Saint-Esprit agir dans notre propre vie. Paul le dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Comment est-ce qu'on attriste le Saint-Esprit de Dieu? En ne pas accomplissant sa volonté, en ne pas l'écoutant. Pour faire quoi? Pour qu'il nous communique aujourd'hui ce feu, ce vent et ces témoignages, et que nous puissions, oui, les mettre en pratique. Car encore une fois, c'est notre vocation. Manifestons ensemble la présence du Saint-Esprit dans l'Église et dans notre propre vie. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous as donné ton Esprit. Tu nous as communiqué ton souffle puissant, ton feu dévorant, et tu as mis sur nos lèvres ta parole de vie. Pardonne notre manque de foi, notre manque de zèle, notre manque d'enthousiasme pour ton royaume et pour les choses qui te concernent. Car des fois, nous pensons plus à nous-mêmes qu'à toi. Et pourtant, tu es clair dans ta parole. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. D'abord. En ce jour de Pentecôte, Seigneur, tu nous appelles à aller de l'avant, à lever les voiles vers le large. Comme tu as dit aux Lévites qui transportaient ton arche au bord du Jourdain, ils avaient l'eau qui arrivait aux genoux et le Seigneur dit « Avance !» Et dès qu'ils avançaient par la foi, la mer s'est ouverte. Aide-nous à ne pas rester immobiles sur nos chaises, Seigneur, mais à sortir dans la rue et annoncer ta sainte parole, témoigner de ton amour, de ta grâce qui est réservée à tous ceux qui se confient en toi. Renouvelle en nous ton esprit, Seigneur, afin que nous sachions nous montrer dignes de cette vocation que tu nous as donnée. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Convertis nos cœurs, Seigneur, afin que nous soyons des instruments entre tes mains, car ce monde a trop besoin de toi. Nous te remercions, Seigneur, d'avance, et nous te disons, manifeste ta gloire dans nos vies pour ce monde perdu. Amen.